is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Bonjour et bienvenue à l'émission des livres pour dire, l'émission de Scriptalinia sur les ondes de Radio Air Libre à Bruxelles et dans le monde entier via Internet. Émission spéciale aujourd'hui et hors les murs, puisque nous sommes à Babelsin, à Oudergem. Alors il y a quelques mois déjà, le collectif des mots envolés présentait son deuxième recueil, Féminité. Aujourd'hui, une délégation du collectif rencontre plusieurs membres de Babelsin pour explorer le thème de la féminité ou des féminités, du féminisme aussi peut-être à mettre au pluriel, des masculinités et des questions de genre à partir des textes du collectif, mais aussi d'un texte écrit à partir de ce thème lors d'un atelier d'écriture animé par Babelsin. Alors maintenant, on va mettre des voix sur les visages. Et pour vous, auditeurs et auditrices, les voix qui vivront dans cette émission. Alors au micro, pour l'instant, c'est Isabelle. Et voilà, vous l'avez entendu, je suis légèrement malade.
Je m'appelle Alessio.
Moi, c'est Salimata Kabore du collectif des mots envolés.
Anne-Sylvie pour Babelsin.
Alain, Babelsin.
Jean-Paul du collectif des mots envolés.
Aïcha, la membre.
Alexandra, l'une des animatrices du Babelsin.
Myriam de Babelsin, bienvenue à vous sur nos ondes.
Voilà, et donc moi je vais juste prendre une petite minute pour expliquer un petit peu justement ce qu'est le Babelsin. Donc nous sommes un lieu de lien qui est situé à Oudergem, sur la chaussée d'Oivre. Et nous sommes un projet du service de santé mentale d'Oudergem qui s'appelle Le Grès. Et ça fait 3 ans qu'on a ouvert nos portes. Et en gros, le Babelsin a été créé pour accueillir des personnes qui rencontrent des difficultés psychosociales. Mais c'est un lieu qui est ouvert à tous et à toutes. On peut passer prendre un café, on peut discuter avec le groupe, on peut faire les activités ou ne pas faire les activités. On peut rester 15 minutes ou la journée entière. On propose aussi différentes sortes d'activités. Elles peuvent être artistiques, sportives, ludiques. Et on fait également 2 sorties culturelles par mois. Nous proposons également des repas 2 soirs par semaine. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est que toutes les activités sont pensées avec les membres et certains de nos membres animent aussi des ateliers. Et la dimension de co-construction est vraiment hyper importante pour nous parce qu'en fait, on est un collectif avant tout. Et donc, je vais passer la main à Salimata qui va nous lire un texte issu du recueil Féminité.
C'est le texte Féminité, j'écris ton nom. Féminité, j'écris ton nom. Féminité, il n'y a plus de nom. Féminité gravissant les échelons. Féminité, tu m'as aidé à grandir. Féminité, tu me fais revivre. Féminité, chaque jour l'amour. Féminité tirée à 4 épingles. Féminité me ravit le cœur. Féminité, je suis enfin femme. Féminité, j'écris ton nom. Liberté.
Merci Salimata. Alors c'était important aussi pour le Babelsin de connaître un petit peu mieux le collectif des mots envolés. Vous venez depuis 1 an quelquefois occuper nos locaux. Et donc voilà, on a quelques petites questions à vous poser. Donc là vous êtes 3 aujourd'hui à les représenter. Donc il y a Isabelle, Salimata et Jean-Paul. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter un petit peu votre collectif d'écrit?
Bon, première chose, un collectif d'écrit n'est pas un atelier d'écriture. C'est le rassemblement d'un certain nombre de personnes qui sont des écrivains et qui aiment écrire. Alors, on crée un collectif pour présenter entre nous des textes. Ces textes, nous les écrivons chez nous, nous les présentons entre nous lors de nos réunions, nous les discutons, nous les amendons. Et tout ça débouche à la fin d'une session qui peut durer entre 1 et 2 ans. Tout ça débouche sur la rédaction d'un petit fascicule qui reprend l'ensemble de nos textes. C'est aussi une aventure d'amitié parce que des liens se nouent entre nous, des relations qui sont proche, assez intime, parce que finalement, tous ces textes sur des sujets que nous choisissons de manière collective nous amènent à nous ouvrir par l'écriture à ce que nous sommes, à ce que nous pensons, et peut-être évoluer dans notre réflexion. Moi, par exemple, en tant qu'homme, par exemple, eh bien, me retrouver dans un collectif essentiellement constitué de femmes et devoir parler de féminité n'a pas été une chose spécialement facile.
Oui, je précise peut-être en plus que devoir parler de féminité, c'est pas vraiment, enfin, c'est-à-dire c'est un devoir ou une obligation qu'on s'est fixé nous-mêmes. C'est-à-dire que, en fait, le collectif choisit son thème, un thème de société, et donc voilà, on avait choisi féminité, et Jean-Paul a choisi avec l'ensemble des membres. Donc voilà, et on en est en fait à notre deuxième recueil. Puisque le premier thème, c'était les vulnérabilités. Donc voilà, il est sorti en 2022, je crois, Vulnérable. Et on va démarrer un troisième parcours d'écriture en septembre.
Ok. Moi, je reviens simplement un peu sur le titre du recueil. Donc c'est Féminité avec un S. Je pense que c'est un choix qui est important. Pourquoi vous êtes partie sur cette thématique ?
Bon, moi, je peux dire que je suis arrivée déjà quand dans le groupe, quand le sujet était déjà choisi. Mais en fait, ils ont fait plusieurs séances pour déterminer des exercices différents, en fait, pour arriver à un thème choisi collectivement. Et féminité, bon, on peut pas, c'est comme on parle de femmes, il y a plusieurs, en fait, dans le groupe, chacun a sa vision, comme nous tous ici. Chacun a sa vision du mot féminité, donc S au pluriel, parce qu'il y a plusieurs façons de voir la féminité. Et vous allez remarquer que dans le livre, il y a des textes plutôt comme des témoignages, comme des poèmes, ou plus fictifs, etc. Donc voilà, il y a toutes ces visions. Mais le point commun, c'est que à travers ces différents textes, chacun, on a aussi un peu l'histoire ou l'expérience de chaque personne aussi, voilà, à travers les textes.
Oui, alors on s'est aussi rendu compte que la manière de comprendre la féminité était diverse selon les âges aussi, selon les époques. Mm-hmm. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a ajouté le S au fur et à mesure de nos réflexions. Et pourquoi au départ on a choisi féminité, Jean-Paul, je ne sais pas si tu te souviens, mais je pourrais pas dire précisément quels étaient les arguments à l'époque. Si ce n'est que effectivement à notre époque, on parle beaucoup mm-hmm. des questions de genre, des questions liées aux femmes, aux hommes, aux transgenres, etc. Et donc tout ça plane très fort, mm-hmm. et donc on avait envie de creuser ça. C'est la façon d'être femme, mais qu'on soit homme ou femme, en fait. Et donc, du coup, on voulait bien distinguer. On n'avait pas envie d'appeler ça féminisme au pluriel, mais c'est plutôt féminité, parce mm-hmm. que ça questionnait l'aspect féminin qu'on a en nous tous, en fait, et mm-hmm. toutes.
Et aussi, on voulait aussi parler de masculinité. On ne peut pas parler de féminité sans... Voilà. Ouais. Pas s'arrêter sur le mot féminisme, mais aller plus loin que ça.
Mm-hmm. Du coup, je peux rebondir sur la... Tu parles de féminisme, Isabelle, parce que je trouve quand même que dans les textes, il y a une grande part d'engagement. Et donc, est-ce que lier féminité et féminisme, est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment évident dès la construction du recueil, ou alors c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure, dans le sens où j'ai vu quand même que vous êtes nourri de plein de choses pour faire ce recueil, vous avez été voir des expositions, vous avez vu des films, mais est-ce que cette notion de féminisme et voilà, de combat, de revendication était là dès le départ, ou est-ce que c'est vraiment, au fur et à mesure on creuse le sujet, on se dit on parle de violence aussi énormément, et donc, est-ce que c'était évident que c'était, que la part d'engagement allait être aussi importante dans le recueil ?
Moi, j'ai eu le sentiment que oui, que chaque personne, dans les filles qui étaient, les jeunes femmes qui étaient autour de moi, elles avaient envie de parler de ce sujet, et elles avaient envie de mettre en exergue certaines à travers leurs textes une partie de leur propre vécu, de leur propre révolte, de leurs revendications, etc. Et donc, effectivement, le féminisme et féminité étaient liés, et probablement dans l'esprit de tous et de toutes, dès le départ. Le mien aussi, d'ailleurs.
Pour ma part, oui. Enfin, disons que, a priori, comme ça, on reste très libre, en fait, une fois qu'on choisit le thème, de traiter le thème de la manière qu'on le veut. Et donc, on va y mettre, voilà, chacun un peu de son histoire, peut-être, effectivement, et de ses engagements, de ses positionnements. Et c'est vrai que moi, pour ce qui me concerne, c'est vrai que je développe un féminisme depuis vraiment pas mal de temps. Pas forcément, mais voilà, en sachant qu'il y a une diversité de féminisme aussi. Mm-hmm. Et donc, voilà, ce mot-là... peut effectivement fermer des portes. Or, chez moi, la façon de voir le féminisme, c'est vraiment une idée d'œuvrer pour l'égalité entre tous et toutes. Mm-hmm. Et donc, voilà.
Bah, pour ma part, oui. Déjà, avant le texte, depuis longtemps, je travaille beaucoup, que ce soit en peinture ou en écriture, sur le thème des femmes. Et aussi, voilà, dans mes travaux, c'est plutôt engagé pour... dire qu'il y a certaines choses qu'il faut changer, mais aussi juste tout simplement s'exprimer en tant que femme, et en tant que femme aussi qui a vécu des choses, et en tant que femme qui a envie de partager les choses avec d'autres femmes, ou peut-être contribuer avec d'autres femmes pour changer certaines choses, même si c'est minime. Voilà, c'est un peu... et ça tombe bien que le thème était féminité. Quoi. Mm-hmm. Voilà, merci.
Merci.
Alors maintenant... on va avoir le plaisir d'entendre un texte de votre plume. Alors, moi, je suis vraiment très curieuse, et je crois que Jean-Paul et Salimata aussi, de savoir dans quel contexte il a été écrit, parce que c'est vrai qu'on espère toujours faire des petits à travers ces recueils. Et donc, voilà, comment ça s'est passé ?
Donc du coup, pour préparer l'émission, on a organisé une journée un peu thématique autour des féminités. Et donc dans ce cadre, notre atelier d'écriture s'est organisé sur ce thème-là. Et donc on a pas mal décortiqué le mot féminité et voilà, voir un petit peu à quoi ça nous faisait penser. On a fait tout un champ lexical extrêmement, extrêmement large. Et donc on a vu un peu tout ce à quoi ça nous renvoyait. Et donc de là, on a créé un texte collectif à une voix. Donc c'est un texte écrit que en jeu. Donc on est parti sur la proposition que voilà, chacun d'entre nous écrivait 3-4 phrases qui exprimaient un petit peu nos vécus. Et ensuite, on faisait un espèce de gros melting pot, on les mélangeait et on recréait un texte. Donc c'est pas quelque chose qui est continu, et donc c'est l'idée. Mais donc voilà, l'idée c'est de parler d'une seule voix, mais c'est d'exprimer aussi toute la multiplicité de nos vécus et de nos rapports au genre, au monde, en tant que femmes et hommes. Donc on a vraiment été aussi ça a été un atelier mixte, et donc voilà, c'est un texte très très riche. Et voilà, et c'est Aïcha qui va vous le lire.
Je suis toujours dans mes casseroles. Je suis en colère. Je suis une femme soumise. Je suis un corps champ de bataille. Je suis maman. Je suis la masculinité qui accepte la flamme du combat, supporte l'abolissement des stéréotypes. Je suis d'une extrême sensibilité, fragilité, et je ne suis qu'émotion. Je suis consciente que dans le monde entier, il y a des femmes excisées. Mais c'est la tradition. Dans certains pays, je suis l'espoir et la force d'y croire. Je suis courbée, je suis tirée des casseroles, je suis le doute et le long de ma route. Je suis l'amour d'une mère, nul ne l'oublie, un océan de câlins. Je suis heureuse de la solidarité et l'entraide féminine. Je suis liberté, tradition, une pureté instable qui se mêle, se démêle. Je suis le miroir qui reflète la sensibilité de notre communication.
Voilà, c'est une première partie de votre texte, et puis la deuxième partie sera poursuivie par après, hein, dans l'émission. Donc voilà, c'est un petit teasing, comme on dit. Alors, poursuivre, donc, comme je disais, c'est toujours l'idée d'aller plus loin et de, comme disait aussi Jean-Paul, on choisit un thème pour approfondir la réflexion sur ce thème par l'écriture. Mais après, une fois que le recueil est écrit, ben, c'est un peu l'idée que le recueil soit aussi moteur de réflexion ben, au-delà du collectif, en fait. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça va être le moteur de la réflexion avec vous. Membre de Babelzine. Et donc, on avait une première question. Enfin, je vais poser la première question et après, je laisserai la parole à Jean-Paul et à Salimata. Mais c'est quoi, en fait, pour vous, la féminité? Si vous deviez voilà, essayer de la définir, Myriam?
Pour moi, la féminité, c'est l'espoir. Enfin, pas l'espoir. Le désespoir et l'espoir. Parce que dans la féminité, il y a du négatif aussi. Il y a du bon et il y a du mauvais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je ne trouve pas les bons mots, mais voilà.
Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a du bon? Qu'est-ce qu'il y a du...
Bah, l'excision, par exemple. C'est courant dans certains pays. Ça existe encore. Ça entraîne des dommages à la femme, urinaire et tout ça. C'est dans des pays reculés, avec la mentalité comme ça. Il y a du bon, ça fait du bien de se faire jolie, se maquiller. C'est ça, la féminité. C'est aussi croire à ce qu'on veut et faire paraître ce qu'on veut de la féminité. Enfin voilà, excusez-moi, je sais pas bien m'exprimer. Pour moi, c'est très clair dans ma tête, mais... Je mets pas les bons mots, voilà.
C'est déjà bien.
La féminité, c'est un ensemble de caractères physiques et psychologiques différents des hommes. C'est pour ça que parfois on se comprend pas. Et il faut toujours essayer de se comprendre et pas interpréter les phrases directement.
Tu as un exemple de choses qui sont difficiles, en fait, entre les hommes et les femmes, au niveau de la compréhension?
Parfois, une phrase masculine peut être interprétée comme dure, alors que ce n'est pas du tout le message qu'il peut véhiculer. Mais ça peut se voir à la tête de la personne, hein, si elle est blessée ou pas. Voilà.
Oui, c'est ça. Certains mots peuvent blesser sans le vouloir, c'est ça. Et alors, c'est le non-verbal de la personne qui fait que... Ah ouais, ok, la mal reçue, en tout cas. La façon de parler peut-être directement, enfin, peut-être plus... On est plus direct quand on est un homme.
Pour revenir sur ça, je dirais que la femme est plus sensible que l'homme. La femme, elle va vite être sensible sur ce domaine-là. Alors que bon, voilà, c'est ça qu'il faut faire attention à ce qu'un homme dit à une femme, parce qu'elle va vite se sentir mal, quoi. C'est important de faire attention à ça, parce que l'homme et la femme sont différents, et ça, c'est les études, ils ont prouvé tout ça, quoi. Voilà.
Moi, l'idée que j'ai, qui me vient comme ça, c'est le docteur Mukwege, un prix Nobel, hein, qui répare les femmes, donc dans le Congo, et qui travaille pour une belle cause. Et qui dit, je crois qu'il dit à ces jeunes filles ou ces femmes qui ont été abîmées, qui se retrouvent, qui se restaurent, qui se remettent debout, il dit, je veux vous voir sortir de chez moi en dandinant. Et donc c'est la beauté de la femme, mais comme une force, comme une joie, comme une force et comme une joie. Une fierté, mais une belle fierté, pas une fierté qui écrase, une fierté qui est, je suis fière de qui je suis. Heureux d'être qui je suis, si on peut dire.
Et il ne faut pas oublier que les hommes ont 20% d'hormones en plus que les femmes. Donc 20% en plus d'hormones.
Et qu'est-ce que ça fait alors, 20% en plus d'hormones?
Ben, c'est plus dur à gérer.
On en discutait justement là tantôt, quand on a fait notre balade, que tu disais, on a 20% de plus que les femmes. Mais les femmes aussi, tu sais, ne t'inquiète pas.
La femme, elle cherche quand même pas mal de choses, elle doit gérer la maison, elle doit gérer les enfants, elle cherche pas mal de trucs. Et parfois, les hommes, ils se rendent pas compte de tout ça, quoi. Ils sont là, ils se plaignent sur le temps de la femme, mais ils se rendent pas compte que la femme, elle a quand même pas mal à gérer. Et tout ça, enfin, un peu qu'ils font plutôt des compliments aux femmes, qui la rabaissent, quoi. Et ça, c'est un peu grave, quoi. Voilà.
Ne vous inquiétez pas, il y a des hommes qui se rendent compte que les femmes travaillent beaucoup, la maison, les enfants, la vaisselle, la cuisine, tout, c'est quasi une entreprise quoi, qu'elle doit gérer.
Oui, oui, il y a la charge mentale des femmes qui effectivement est soulignée et pointée du doigt aujourd'hui, avec évidemment comme effet. Hein, comme tu dis, y a des hommes qui s'en rendent compte avec quand même un effet peut-être qu'on peut espérer, un meilleur partage des tâches. Vous avez parlé de sensibilité chez les femmes, d'hormones chez les hommes. Mm-hmm. Enfin, les femmes en ont aussi, hein, quand même. C'est ça que je voulais dire. Mais justement, est-ce que la féminité, est-ce que c'est réservé aux femmes, aux seules femmes ?
Oui, il y a des hommes qui sont un peu féminins, qui se font aussi... Qui se font... Moi, un homme qui prend soin de lui, ça ne me dérange pas, quoi, mais voilà. Mais bon, il faut être ouvert, quoi. On est en 2024, il faut ouvert, ça ne dérange pas. Voilà.
Mais c'est intéressant d'entendre que donc, être une femme, enfin, la féminité et prendre soin de soi, c'est ça, hein, c'est une des définitions, peut-être.
Je dirais que l'homme n'est pas féminin, mais plutôt, il s'ouvre à la compréhension de ce qu'est une femme réellement, pas comme dans les anciens plans d'avant, c'est plus d'ouverture d'esprit, je pense. Et c'est là qu'il peut changer.
Moi, on m'a toujours dit qu'un homme et une femme avaient toujours une part de masculinité et de féminité. Et je pense que c'est vrai. Parfois, il y a des hommes qui sont plus féminisés. Et voilà. Et ce n'est pas pour ça qu'ils sont homosexuels. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Donc, voilà. De toute façon, dans le monde qu'on vit maintenant, c'est tellement varié comme unisexe. Et je ne comprends rien à ce truc. Je vous dis sincèrement, je ne comprends pas. Mais si on m'explique, peut-être je pourrais comprendre. Mais voilà. Avec Internet, ça prend une ampleur... Autre aussi, la féminité.
Donc oui, une très grande diversité.
Moi, j'ai connu une famille où, au niveau du couple et des enfants, les enfants allaient plus, s'ils avaient besoin de se confier, allaient plus aller vers leur père, qui avait justement plus de sensibilité, que la mère était plus sportive, à faire du sport, et dès qu'elle rentrait à la maison, elle se mettait en short. Donc, et le père... plus dans la lecture, plus dans des choses plus posées. Et donc, c'était assez drôle de voir ces aspects-là qui sont plus traditionnellement dédiés à la femme ou à l'homme, qui étaient justement plutôt inversés.
Oui, intéressant hein, de voir que finalement, on hérite de catégories ou de cases, et puis que maintenant, comme tu disais, Myriam, peut-être tout est éclaté et du coup, on n'a plus les repères d'avant. Mais enfin, ce n'est pas forcément moins bien non plus. Alors, on va entendre un texte qui a été écrit par Bénédicte Pouivet, je crois.
Donc, le texte s'appelle « J'ai toujours travaillé ». C'est écrit par une des membres de notre collectif, Bénédicte Pouivet. Donc, je vais vous lire un extrait parce que sinon, on va prendre... Il est relativement long et on ne va pas passer toute l'émission à ce texte qui pourtant vaut la peine. J'ai toujours travaillé. Mais qui n'a jamais entendu une seule femme clamer ces mots de la sorte, les brandir tel un étendard, voire une devise qui justifierait toute sa vie? L'énergie déployée ne laisse aucun doute. Il faut que ça claque. Elle doit prouver qu'elle n'a pas subi, qu'elle a choisi de toujours travailler, qu'elle n'a pas renoncé, qu'elle ne s'est pas soumise et qu'elle a réussi, surtout là où d'autres, peut-être, ont lâché l'affaire. Elle se veut femme de caractère, femme libre, femme extraordinaire, femme modèle, femme méritante. Pourquoi ? Pourquoi affirmer haut et fort avoir toujours travaillé ? Pourquoi avec tant de rage cette affirmation ? Je cherche et je ne me souviens pas d'avoir entendu un homme prononcer ces mots. C'est tellement pas de cette façon, si c'était le cas. Je crois que je m'en serais souvenu si c'était, et c'est si peu probable. C'est que pour une femme, travailler, c'est affirmer que l'on vaut quelque chose au regard des autres. Une femme qui travaille est une femme qui existe. Une femme qui travaille, c'est une femme qui nourrit son foyer coûte que coûte. Malgré la dureté de l'ouvrage, malgré les heures supplémentaires non payées, malgré la course permanente pour boucler les tâches imparties dans un horaire impossible, malgré la déshumanisation galopante, pas le temps de s'arrêter, de parler, de tisser des liens, malgré les rêves et les projets qui attendent au placard du cœur. Les mots d'ordre, salaire, rentabilité, efficacité, bénéfice, plus vite, mieux, tout de suite, urgent. Une femme qui travaille, c'est aussi, paradoxalement, une femme qui n'a pas renoncé à ses rêves, parfois. Une femme qui ne s'est pas pliée à des exigences imposées par un système patriarcal, peut-être. Une femme qui est une héroïne, une résistante, une force de la nature, sûrement. C'est une femme qui voudrait de la reconnaissance, de la gratitude, des responsabilités sociétales, politiques, entrepreneuriales, professionnelles, sans aucun doute. Souvent, au détour d'une conversation avec une nouvelle tête, elle insiste. « Et pas un seul jour de congé maladie, je ne me suis jamais arrêté. » La gloire, l'existence héroïque, l'admiration dans les yeux de l'autre. Cet autre, c'est parfois celle qui a cessé son activité professionnelle. Parce qu'elle a craqué avec ce rythme infernal de deux journées en une, burn-out, dit-on. Parce que l'épuisement professionnel, ça sonne moins bien. Petite nature, en d'autres termes, sexe faible aussi. Il existe toute une collection de ce genre de perles.
Merci Jean-Paul pour ce texte. Moi, il me parle beaucoup. En fait, j'ai vu un peu ma vie défiler, là, enfin mes années passées. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Je trouve ça très bien. Merci.
Je ne sais pas si d'autres ont envie de réagir, Alessio.
Bravo pour le texte.
Et je dirais, la suite vaut la peine aussi, parce qu'après, on confronte ces deux femmes. Et moi, je me retrouve tout à fait dans cette confrontation. Et quand je rencontre une femme qui a dû baisser les bras, entre guillemets, qui le dit même quelquefois en pleurant, en sous-entendant qu'elle n'est plus rien parce qu'elle ne travaille plus, et alors... Enfin, ça m'est arrivé de consoler ces femmes-là, alors que moi, je travaille, donc ce n'est pas toujours une confrontation nécessairement, à pouvoir valoriser ce qu'elle fait, qui n'est pas valorisé, et à lui dire que ma mère, par exemple, était au foyer, j'ai eu cette chance, je pense que c'était une chance, peut-être pas pour elle, mais en tout cas pour nous, les enfants. Et donc, j'ai un modèle qu'elle n'a peut-être pas. En l'occurrence, cette fille, en effet, sa maman travaillait, et de lui dire, mais tout ce temps que tu passes pour tes enfants, aller conduire à la musique, aller conduire au foot. Moi, je connais des femmes qui travaillaient et qui ne pouvaient pas, à leur fils, elles devaient dire, tu ne pourras pas aller au foot parce que maman travaille le mercredi et qu'il n'y a personne pour te conduire. Et c'est à la mort dans l'âme, j'ai envie de dire, ou tu ne pourras pas faire de musique. Et je voyais que ça la touchait très fort, au point qu'elle me disait, par exemple, elle n'osait plus sortir de chez elle de peur qu'on lui pose la question de ce qu'elle fait. Et un jour, on a fait la file pour inscrire nos enfants à la musique, et on a rencontré une dame. Après, j'ai su que c'était une dentiste. Mais dans toute la conversation, ça a duré quand même une bonne heure, à aucun moment on a parlé de nos vies professionnelles et j'ai senti dans ses yeux que c'était ouf, on peut sortir de chez soi sans qu'on nous pose la question de ce qu'on fait et de devoir être gêné de dire je suis à la maison, parce que ça sous-entend aussi peut-être j'ai les moyens, monsieur a les moyens de me garder à la maison, donc c'est compliqué.
Moi j'ai trouvé ce texte particulièrement aussi interpellant. En fait, une des premières questions quand tu rencontres quelqu'un, c'est « Tu fais quoi ? Tu travailles où ?» Voilà. Et je me dis, il y a beaucoup de travail que les femmes font Il y a aussi des hommes qui sont à la maison, qui s'occupent de leurs enfants, mais ce n'est pas reconnu. Donc, c'est du travail. Maintenant, moi, je réponds avec humour, mais je travaille aussi à la maison. Voilà. Mais voilà, c'est une question qui vient... Enfin, je ne sais pas si c'est naturellement ou c'est la société qui est habituée à poser ce genre de questions, mais c'est quand même frappant de, à chaque fois d'entendre ça, quoi.
J'ai parlé des femmes divorcées, c'est encore plus compliqué. Les femmes divorcées qui sont avec leurs enfants, à l'autre côté, là. Et ça aussi, c'est compliqué de gérer tout ça. Tu vas prendre l'enfant, tout ça. C'est aussi, les femmes divorcées n'est pas facile. Quand tu as tout ça avec les enfants, le revenu de la femme n'est pas facile. Surtout que tout le monde sait que la femme gagne moins que l'homme. Et ça, ça n'a toujours pas été changé. Et ça, on espère qu'un jour, ça changera. On ne comprend pas pourquoi, en fait. C'est pas normal, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est des enjeux de société. Hein. Il y a quand même, on en parlait tout à l'heure, je pense, hors antenne, de la violence faite aux femmes. Mais il y a aussi la question, effectivement, des familles. On les appelle les familles monoparentales, mais c'est principalement des femmes qui sont à charge d'enfants et pour lesquelles c'est vraiment dur, effectivement, de combiner l'ensemble. Et puis ce que tu disais, Salimata, effectivement, on est dans une société où on reste dans cette référence au travail rémunéré, donc le salaire, et où l'existence n'est reconnue qu'à travers ça. Et donc c'est, je crois, aussi quelque chose contre lequel il faut lutter.
Moi, je dirais même pas, parce que même les salaires sont différents. Ouais. Il faut pas l'oublier, ça. Si un homme fait le même travail que la femme, comme éboueur, par exemple, il y a de plus en plus de femmes qui sont sur les trottoirs à balayer et tout ça, ben, ils ne sont pas payés pareil. Donc, il faudrait que ça évolue un petit peu quand même. Voilà, la femme, on demande beaucoup de choses à la femme. Énormément de choses. On doit être bien au foyer, on doit travailler, on doit être... Enfin, voilà, c'est la société qui est comme ça maintenant.
Et oui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'inégalités et je crois qu'une des revendications du dernier gouvernement, enfin auprès du dernier gouvernement, c'était de qu'on soit attentif, par exemple au niveau de la réforme des pensions, à la question des femmes, parce que ben, le parcours de vie est forcément différent, puisque enfin souvent les femmes ont des enfants, ont des carrières réduites pour justement s'occuper de ces enfants-là, parce que voilà, ça demande du temps. Et donc, ne pas en tenir compte, c'est clairement discriminer les femmes, ça c'est clair.
Ben, le pire, c'est la retraite. Quand on voit les petites retraites des mamans, c'est honteux, quoi. Et puis c'est toujours la femme qui doit prendre des congés sur son truc, et puis elle a un salaire de misère après. C'est grave, en fait. En plus, je trouve, quand tu es âgée, tu as plus besoin d'argent que pour tes soins, quoi. Alors, tu deviens dans la précarité encore plus qu'avant, quoi.
Oui, enfin, je pense que c'est aussi une question d'équilibre. Enfin, moi, je pense à... Enfin, on parle des femmes qui font carrière et des femmes qui choisissent de rester à la maison. C'est deux choix qui se valent complètement autant l'un que l'autre. Je pense que l'idéal, en fait, c'est simplement de pouvoir avoir un équilibre entre ne pas choisir, en fait, entre sa carrière et ses enfants. Je veux dire, les personnes, les femmes qui font carrière, c'est parce que bah, elles sont portées par des aspirations enfin, que la plupart des hommes ont et qu'on ne remet jamais en question, mais souvent doivent sacrifier aussi leur vie personnelle. Enfin, beaucoup de femmes disent qu'elles ne voient pas grandir leurs enfants parce que, en fait, un temps plein, c'est extrêmement... ça bouffe tout notre temps et certaines femmes font le choix de rester à la maison, mais justement pour privilégier ça et en fait juste pour profiter de sa famille, tout ça, c'est extrêmement important aussi, mais enfin, c'est complètement dévalorisé aux yeux de la société, autant dans, enfin, financièrement que le regard des gens, et c'est quand même extrêmement compliqué à assumer. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est... On est quand même aussi là dans une logique de travailler moins, en tout cas le... On remet quand même un petit peu en question cette notion de travailler temps plein et de tout donner à son travail et tout ça. Donc, enfin, j'ai l'impression que dans nos générations, quand même, les choses bougent un petit peu et on se rend compte qu'on pourrait autant travailler, on pourrait avoir une carrière, mais tout en ayant plus de temps pour sa famille, et que c'est un équilibre à trouver. Ça, c'est extrêmement précaire, mais pour moi, la clé, elle est là, en fait. Je pense qu'une femme devrait pouvoir avoir une carrière et du temps pour ses enfants et je pense que c'est un idéal. Je ne sais pas quand on l'atteindra, mais si on l'atteindra même, je ne sais pas. Mais
En tout cas, voilà, c'est une question d'équilibre qui, pour l'instant, ne fonctionne pas, quoi.
Voilà, et tu parlais de génération. Oui. Ça vaudrait peut-être la peine, comme disait Myriam au début, enfin, hors antenne, de dire à peu près enfin, dans quelle tranche d'âge tu es, parce que...
Oui, ben, moi, j'ai 35 ans. Voilà. Donc, okay. Et après, je ne suis même pas sûre que c'est dans ma génération vraiment que ça bouge. J'ai l'impression que c'est plutôt dans... En tout cas, dans les jeunes de 20 ans, et en tout cas, qu'il y a des vraies remises en question d'un modèle sociétal qui ne, ouais, qui ne fonctionne pas tellement. Ou, enfin, en tout cas, c'est clair que le tout pour le travail ne fonctionne plus. Les gens, j'ai l'impression, rejettent ça énormément. Quand on voit le taux de burn-out et tout ça, enfin, je veux dire, ça, on ne l'a pas vraiment abordé, mais la question de la santé mentale chez les femmes, c'est une thématique à part entière. On pourrait en faire une émission. Là, il y a une étude récemment qui est sortie, je ne sais plus qui l'a faite, mais qui disait à quel point, ben, en fait, les personnes touchées le plus par le burn-out, ce sont les femmes, pour plein de raisons, mais essentiellement parce que, ben, y a des doubles charges de travail, et ça, on le sait, on parle de charge mentale aussi énormément. Ça commence à bouger, on s'en rend compte dans les couples, on essaie de répartir un petit peu mieux les tâches ménagères et tout ça, mais c'est un gros chantier, quoi. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, déjà dans ma génération, il y a des remises en question, mais j'ai l'impression, ouais. En tout cas, je suis pleine d'espoir pour que la génération après la mienne, qu'on mette un petit coup de pied dans la fourmilière, quoi. Et que...
Oui, oui. Et ben, c'est vrai que moi, je constate aussi des changements. Enfin, il y a aussi la question des hommes et de la place des hommes dans la famille.
Tout à fait.
Hein, et par rapport aux enfants. Et quand je vois maintenant chez les jeunes, parce que je n'ai plus l'âge d'avoir des enfants, mais des petits-enfants, mais quand même chez les jeunes, maintenant les hommes ont un mois de peuvent prendre, oui, un mois de congé de paternité, alors, oui, que à mon époque c'était 3 jours.
Oui,
quoi.
Tout à fait.
Et donc ça, c'est enfin un énorme changement, et oui, on doit continuer, hein. Enfin, je veux dire, ça peut encore s'améliorer, mais c'est quand même énorme. Ça, oui, change aussi les représentations, forcément.
C'est clair que je pense que dans la parentalité, quand même, il y a quelque chose qui a bougé. Après, moi, j'aimerais qu'on arrive à un pays, enfin, avoir des lois comme en Suède, par exemple, où en fait, il y a un congé, enfin, oui, parentalité égale entre la mère et le père. Je crois qu'ils ont 6 mois. Mm-hmm. Enfin, dans les pays nordiques, je trouve ça incroyable. Mais c'est vrai que oui, évidemment, que les représentations changent, et on le voit évidemment de plus en plus que. Bah, que les hommes assument aussi leur paternité, leur parentalité. Et c'est aussi parce que, enfin, je pense que peut-être beaucoup d'hommes ne trouvaient pas cette place-là avant, ou en tout cas la société ne leur permettait pas de trouver, de prendre cette place pleinement. Là, maintenant, il y a quand même nos représentations changent. Et donc, c'est oui, évidemment que ça, c'est extrêmement positif.
Oui, je suis d'accord, c'est super positif. Maintenant, on voit de plus en plus de papas ou d'oncles qui promènent les enfants en poussette ou en porte-bébé. Il y a 15 ans de ça, on ne voyait pas ça. Moi, j'ai 49 ans et j'ai 2 enfants de 30 et 23. Je suis grand-mère aussi. Donc, c'est vrai que je vois les jeunes de maintenant, c'est bien, mais ce n'est pas bien. Parce que, comme je vous dis, Internet a ouvert beaucoup de portes. Il y a beaucoup de bons dans Internet, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Mais je trouve que la société commence à changer par rapport aux hommes, comme vous dites, à moi, de congé de paternité. C'est un grand pas déjà. C'est pas encore le top, mais on espère que ça viendra.
Ouais, c'est vrai que maintenant, les hommes s'investissent plus dans les enfants. Mais quand on voit la précarité, la plus de précarité chez les femmes que chez les hommes, quand on voit un peu les statistiques. Peut-être parce que l'homme, dès qu'il se sépare, il y a le divorce. Il n'aime pas trop la femme, mais ça, c'est un peu grave. Il laisse tomber la femme et il laisse les enfants et il l'aide pas. Et ça, c'est un peu dur pour la femme, quoi. Et ça, on voit plus de précarité sur la femme que chez les hommes quand on voit les précarités. Voilà.
Merci, Aïcha. On va faire une petite pause musicale. Et donc, on va écouter Eddie De Preto avec Kid.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque. Et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire
mérite, je sais. Si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes, tu seras viril. Mon kit, loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton tympan se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tout sens des fils artères et dopés de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. J'accélérerai tes rives pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rives pour que tes propos cessent et disparaissent.
C'est vous qui avez choisi la chanson? Enfin, qui en précisément a choisi, a proposé cette chanson?
En fait, c'est donc quand on a fait cette journée un peu thématique, donc on avait le matin l'atelier d'écriture et l'après-midi on a un atelier qui s'appelle Studio Babel, et donc on a décidé de pas faire studio, mais en tout cas de parler, d'amorcer une discussion autour des féminités. Et donc voilà, on est un peu parti, c'est un peu parti dans tous les sens, mais l'idée c'était de brasser un peu large aussi pour trouver vraiment les thématiques qui nous intéressaient le plus. Et c'est vrai que la question des stéréotypes est revenue énormément. Et ce qui était intéressant, c'est que on a commencé sur les stéréotypes féminins, et on avait quelques hommes aussi autour de la table. Et c'est vrai qu'au premier abord, les hommes disaient ben non, ben, nous on n'a pas trop de stéréotypes et tout ça. Enfin, en tout cas, on n'est pas tellement victime de ça. Et en fait, au plus on grattait, au plus on se rendait compte que qu'ils existent. Alors, on parle beaucoup des stéréotypes féminins et il faut, parce que il y en a à la pelle, il y en a beaucoup trop. Mais en tout cas, les hommes sont aussi victimes de ça. Et donc, ça nous a permis d'avoir des chouettes discussions justement. On a un peu abordé cette question-là un peu plus tôt dans l'émission. Et donc la chanson de Eddie Dupress, enfin, ça nous est venu en tête et on l'a trouvée très à propos par rapport à cette virilité abusive, comme il dit, et à toutes ces injonctions en tant qu'homme de devoir être fort, musclé, voilà. Et cette chanson, elle est intéressante parce que autant elle dénonce, j'ai l'impression, en tout cas, vous me direz si vous êtes d'accord, mais autant, voilà, les stéréotypes, en tout cas, les injonctions masculines, mais il faut aussi référence à certaines, enfin, en tout cas, à certains stéréotypes féminins. Il parle de sensible, il parle de rose, on est quand même dans des représentations très clichés, quand même, pour parler des femmes. Et donc, voilà, je trouve que c'était bien amené, le mix était intéressant. Et donc, voilà, on était parti, on s'est rendu compte que les stéréotypes, c'était vraiment un sujet, enfin, hyper intéressant. Et donc, moi, j'ai une petite question à vous poser par rapport à ça, justement, pour aller, essayer de recreuser un petit peu plus. Pour vous, les stéréotypes féminins et les stéréotypes masculins les plus présents, qu'est-ce que ce serait?
Que la femme, elle fait que la beauté, qu'elle fait que se maquiller, qu'elle n'est pas intelligente, quoi. Qu'elle est bête, quoi. Voilà.
les cheveux gris, c'est pas beau. Pour les hommes, c'est beau, mais pas pour les femmes. Et donc, il faut se colorer les cheveux avec des produits chimiques toxiques. Non, merci.
C'est vrai qu'on l'entend souvent, ça, la question des cheveux blancs. Là, maintenant, il commence quand même. De plus en plus de femmes assument leurs cheveux blancs, et même dans les stars et tout ça. Alors, c'est un peu con de parler des stars, peut-être, mais je veux dire, il y a quand même un effet d'identification assez fort. Et donc, de plus en plus, voilà, on commence à assumer les cheveux blancs, mais c'est vrai que... On a toujours dit ça, hein, les hommes poivre et sel, qu'est-ce que c'est beau, mais les femmes, qu'est-ce que ça fait vieux. Donc, je suis d'accord avec ça.
La question de la conduite de la voiture, a priori, c'est l'homme qui conduit, et puis si l'homme a bu, alors ça va être la femme, ou il est fatigué, ou n'importe, enfin voilà. Et que d'ailleurs, les femmes conduisent mal, hein, on le sait bien tous et toutes.
Oui, par rapport à ce stéréotype de conduite, il n'y a pas longtemps, en France, ils ont fait une pub contrairement, enfin, en disant « conduisez comme une femme ». Je trouvais pas mal.
Non, mais, et donc conduisez prudente.
Prudente, justement, parce qu'il y a moins d'accidents de femmes que d'hommes. Bon, c'est petit à petit, peut-être on essaie de changer les choses en provoquant aussi le public.
Mais ça renforce encore un stéréotype, oui, peut-être. Enfin, faut voir.
Après,
faut voir si c'est le second degré.
Parce qu'ils ont expliqué, c'est vraiment pour renverser la tendance du justement stéréotype négatif sur les conduites des femmes. Justement, conduisez prudemment, bien comme une femme. Et voilà.
Que la femme n'est pas forte, alors qu'il y a des militaires, des femmes militaires, ça ne veut rien dire. Quoi.
Ah, moi, je dirais non, la femme, elle est forte, justement. Elle peut être même plus forte que l'homme. Mais on dit toujours la femme, on disait avant, la femme en volant, la mort au tournant. Quand j'étais jeune, c'est ça, et comme vous dites, c'est des stéréotypes. Mais voilà, mais je ne sais plus ta question, en fait. Que tu m'avais demandé, Alex.
Quels sont pour toi, pour vous, les stéréotypes féminins et les stéréotypes masculins les plus présents dans la société? En tout cas, ceux qu'on entend le plus, qu'on nous rabâche le plus depuis qu'on est enfant.
La féminité, pour moi, je vais rester dans les médias. Hein. Marilyn Monroe, Jennifer Lopez, sont très féminines. Et masculin, le président des États-Unis. Hein.
Elles sont très sexualisées aussi, c'est aussi intéressant que...
Oui, là je ne vais pas plus loin que le bout de mon nez.
Je vais en sortir une, Jane Birkin, qui a priori n'est pas avec les rondeurs de Marilyn Monroe. Et moi c'était pour moi important d'avoir des références autres pour dire il n'y a pas besoin d'avoir des gros nichons pour être une femme, ou, par exemple, ou d'avoir des courbes si on est plutôt longiligne ou... Donc je pense qu'elle a aidé beaucoup à proposer d'autres stéréotypes, peut-être, mais...
Quand dis-je forte, c'est pas forte mentalement, pour se battre. On croit qu'une femme, elle sait pas se battre comparé à un homme. Qu'un homme, il se bat qu'une femme, c'est l'homme qui va remporter, alors qu'il y a des femmes qui se battent des hommes, et c'est la femme qui remporte. Qu'est-ce que ça veut rien dire, quoi. Et on croit que la femme, tout ce qu'elle sait faire, c'est se faire belle, ménage, et pas ça, quoi.
On dit qu'un homme, c'est le diamant brut... et que la femme affine le diamant. Donc, on a besoin chacun l'un de l'autre.
Mais je vais sur un autre débat. Même dans l'homosexualité, il y a toujours un côté... Dans un couple, par exemple, il y a toujours un dominé et un dominant. Et dans un couple, il y a toujours un qui fait plus féminin. Enfin, comment vous expliquer? Moi, je trouve que ça marche bien, homme et femme. Même s'ils sont homosexuels ou lesbiens, il y a toujours un qui fait plus l'homme. Enfin, moi, je vois ça comme ça.
Et est-ce que, selon toi, c'est quelque chose qui peut fluctuer dans le couple? C'est-à-dire qu'à un moment donné, un côté masculin sera plus porté par l'un des deux, et qu'à un moment... Et, enfin, tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui peut bouger? Ou est-ce que, enfin, oui. Ou est-ce que pour toi, il y a...
Il y a quelque chose qui bouge déjà. C'est l'homme, il a ouvert un peu son esprit. Donc ça bouge.
Et en termes de... Parce que là, on a beaucoup parlé des stéréotypes féminins, mais les stéréotypes masculins, du coup?
Être fort, pas pleurer, pas être une mauviette, savoir se battre.
C'est ça, être le chef de famille, chef de la maison, avoir une carrière aussi, quand même.
Je pense que c'est quand même quelque chose que les hommes portent énormément.
Oui, c'est ça, nourrir la famille. Et
protéger.
Quand on observe, il y a du stress du côté des femmes et du stress du côté des hommes avec ces stéréotypes. Quoi.
Après, peut-être je vais mettre les pieds dans le plat, mais je sais que pour certains, par exemple, si on demande l'égalité, on devrait pouvoir aussi aller au combat, les femmes. Quand je dis combat, c'est vraiment... prendre les armes pour, s'il y a des conflits, pouvoir aussi y aller. Et une personne proche me disait que on a comme mis, en mettant ces catégories, ben on oblige aussi les hommes, puisqu'ils sont potentiellement ceux qui vont aller combattre, ben il faut pouvoir aussi qu'ils soient prêts, et donc s'endurcir, avoir de la force, pas pleurer, et enfin ça va peut-être remettre aussi ces choses-là en question. Enfin, je pense à l'Ukraine, il y a aussi des femmes qui sont parties combattre. Et si le conflit continue, il est possible que nos enfants y aillent, ou nos filles y aillent. Donc, enfin, c'est un peu tout ça.
Maintenant, c'est nouveau, maintenant, il y a du foot. Maintenant, des femmes font du foot. À l'époque d'avant, on n'y pensait même pas. On n'y pensait même pas qu'une fille ferait du foot, quoi. On se disait, ah, c'est toujours des dames. Et maintenant, quand il y a des gens qui jouent au foot, ils ne vont pas mettre une fille, quoi. Parce que ça disait, une fille, elle ne peut pas faire du foot, quoi. Ou du vélo, ou plein de trucs, quoi. Plein de trucs où la femme ou la fille ne peut pas faire. Ça veut dire que l'homme, il peut, mais la femme, ce n'est pas capable pour elle, quoi. Ce n'est pas dans son truc, quoi.
Moi, je pense qu'il doit faire la paix, l'homme et la femme.
Je pense qu'on n'est pas en guerre. Je pense que certaines personnes le pensent, mais... Mais non, après, c'est juste qu'en fait, les stéréotypes aussi engendrent des inégalités et qu'il y a quand même des... Enfin, il y a des vrais gros problèmes aussi liés à ça. Et donc, et c'est, voilà, c'est, je pense, un combat aussi un petit peu. Mais,
Oui, c'est aussi remettre en question nos représentations. En fait, hein, à tous, et essayer d'être vraiment dans cette ouverture à l'autre, quel qu'il soit, en fait, ou qu'elle soit. Enfin, ça, je trouve que c'est vraiment un enjeu d'aujourd'hui, d'humanité.
J'ai envie de partager une anecdote de ce matin. J'ai quelqu'un qui devait venir pour un devis, problème de cheminée, et la personne qui est arrivée pour le devis, c'était une femme. Et je lui dis, ah, c'est chouette. Et elle m'a dit, parce que c'était pas mon homme qui s'occupait de ce devis, ça allait être moi. Et donc je me trouvais face à une femme, alors que quand on se retrouve face à un mec, il se dit, ouais, la nana, elle connaît rien. Et donc il en profite pour faire des devis, hop, 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 et tout ça. Et elle dit qu'il y a beaucoup de gens qui lui font
la réflexion
de manière positive. Ouais. Et je dis, ben oui, à partir du moment où elle dit, je crois que j'ai grandi là-dedans. Et je dis, ben oui, moi, je suis petite fille de garagiste, donc on pourrait très bien. Et ma tante avait été à un moment donné à reprendre le garage de son père. Donc il y a aussi des choses un petit peu voilà, qui sont inhabituelles.
Et ben voilà, là, on a un petit peu fait la liste des stéréotypes les plus courants. J'ai juste une petite question encore. On réfléchissait aussi un petit peu lors de cet après-midi, là, de réflexion. En tout cas, l'impact que ça a pu avoir en termes d'éducation ou alors en termes de projection d'avenir. Je pense par exemple aux activités sportives qu'on a pu faire en étant enfant ou bien qu'on nous a empêchés de faire parce que homme, femme, garçon, fille. Je pense, Alessio, tu parlais de non-expression des sentiments. Je pense que c'est important aussi. Nous, les femmes, on nous apprend souvent, en tout cas, on s'exprime plus facilement, on pleure plus facilement. Je pense que les hommes, en soi, vous pleurez autant que nous. C'est juste qu'on ne vous permet pas, en tout cas, on ne vous a pas permis dans l'éducation de pouvoir le faire aussi de façon sécurisée. Je pense aussi au choix des études. On dit tout le temps que les femmes... on coupe souvent un peu la carrière des femmes dans la science ou dans les mathématiques ou des choses comme ça. On dit souvent que les femmes sont plus liées à la littérature, à des trucs ou dans le soin. Enfin, clairement, le secteur du care, comme on l'appelle, est un secteur féminin. Et il n'y a pas que les femmes qui savent prendre soin, les hommes aussi. Simplement, c'est aussi vraiment pour moi toute une question d'éducation.
Le nettoyage
aussi, tout à fait. Donc, quel impact que ça peut avoir aussi, en fait, dans le sens, est-ce qu'on est vraiment... À quel point est-ce qu'on est prisonnier aussi un peu de ces stéréotypes-là et à quel point ça nous influence
dans nos choix de carrière. Et je pensais aussi le rapport au corps. Par exemple, pour les femmes, l'épilation, le maquillage, le choix des tenues et tout ça. Je pense que c'est des injonctions qui sont quand même très présentes dans les quotidiens. C'est parfois compliqué de s'en défaire. C'est parfois compliqué aussi de... Enfin, en fait, de se rendre compte à quel point on a été formaté avec ces injonctions-là. Et donc, voilà, moi, ma question, c'est quel est pour vous l'impact que ça a pu avoir à un moment donné? Est-ce que ça vous a impacté ou est-ce que vous avez pu faire à un moment donné un peu table rase de ça et voilà, parce que je pense qu'on n'est pas tous égaux aussi par rapport à ça. Parfois, on a la chance aussi d'être dans des familles qui nous poussent et qui essayent d'abattre aussi ces questions de stéréotypes, mais pas tous le cas. Et donc, voilà, à quel point est-ce que ça a déterminé aussi un petit peu le... C'est une question peut-être un peu... C'est hyper large, quoi, et aussi très personnel. Et donc, oui, on dit ce qu'on a envie de dire, mais c'était... Je m'interrogeais, ouais, sur l'impact vraiment de... Sur le quotidien, sur nos choix de vie, en fait.
Mais le statut de la femme, c'est un fait sociétal, je crois. Les vêtements, et le maquillage, tout ce qui est fait pour la femme. Je crois que c'est un fait sociétal. Mmh.
Est-ce que tu crois que c'est un choix, en tout cas que la femme a la liberté de pouvoir se dire qu'elle elle s'épile ou pas, ou se maquille ou pas?
Ben, je crois qu'elle n'a pas fait attention à elle avant, durant des millénaires, et que maintenant elle fait attention à elle.
Moi, je suis assez d'accord avec toi, Alex, quand tu dis... c'est vrai, en fait, la femme, elle doit être parfaite, enfin... Elle doit s'occuper des enfants, du foyer, physiquement, comme tu dis, épilée ou pas épilée. Moi, personnellement, oui, c'est mieux que la femme soit bien sur elle et préparée et tout ça. Et celle qui ne s'épile pas, c'est tout con ce que je vais dire. Mais s'il y a des femmes qui ne s'épilent pas... Et ça leur pose pas de problème. Donc, moi, en tant que femme, je m'accepte comme je suis. Et je suis très contente d'être une femme. Et d'être née en Belgique. Et pas dans des autres pays. Comme je disais là tantôt, j'ai pas envie de revenir sur ce sujet. Mais ce thème, ce sujet-là, ça m'horripile, ça me touche beaucoup. Voilà.
En tout cas, c'est le siècle de la femme, hein.
Ah bon?
Oui. Je sais pas. Mais l'ouverture de la femme, c'était dans le milieu du siècle. Et ça a commencé là, en fait.
En tout cas, la première vague de féminisme a commencé durant le XXe siècle. On peut peut-être que dire oui, c'est le siècle du féminisme, en tout cas.
Ouais,
le siècle des revendications, ouais. Et du...
Et ça, c'est oui. Normal qu'on fasse beaucoup pour les femmes, voilà.
On peut voter maintenant. À l'époque, on ne pouvait pas. Puis il y a eu la loi Simone Veil pour les avortements. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. C'est aussi très compliqué. Et voilà, je ne sais plus ce que j'allais dire d'autre.
Mais moi, pour répondre à ta question, Alex, c'est vrai que je suis née aussi dans ce siècle-là où on a vu les transformations quand même pas mal de... Et du coup, quand même, on hérite... Enfin, je veux dire, le changement est quand même assez lent et je me souviens très bien de l'injonction de ma maman de dire tu fais un métier, tu vas travailler dans l'enseignement parce que comme ça, tu pourras t'occuper de tes enfants. Voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que clairement, je me suis émancipée de cette injonction, mais je l'ai quand même suivie un temps. Et puis, effectivement, maintenant, je travaille plus qu'il n'en faut. Mmh. Mais c'est pas forcément par opposition ou par réaction. Mais c'est vrai que voilà, je me suis rendu compte que c'était pas que l'enseignement n'était pas le domaine dans lequel j'allais m'épanouir vraiment. Et donc, mais clairement, c'était une injonction et une difficulté aussi d'imaginer que, par exemple, mon mari allait peut-être s'occuper plus des enfants que moi à un certain moment. Mmh. Quant à l'aspect physique, je dois dire que non, ça, j'ai toujours été assez libre et libérée de toute contrainte et de maquillage ou quoi que ce soit, je dois dire, ça... La question de l'apparence, ça ne m'a jamais enfermée dans une manière d'être, je pense.
C'est qu'à l'époque d'avant, on mettait les filles dans des écoles et on leur disait de s'occuper des enfants, de tout ce qui est la maison. On ne les mettait pas trop dans les études. Maintenant, c'est que ça a évolué. Maintenant, les parents ils sont égaux dans garçons ou filles. Et je trouve que c'est mieux, parce qu'avant, il y avait beaucoup de sexisme. Je pense qu'il y en a encore maintenant, mais maintenant, il y en a moins. Et je trouve ça bien, comme ça, l'enfant grandit bien. Il ne se soit pas dévalorisé, et je trouve ça pas mal. Voilà.
Pour moi, je pense que l'éducation vraiment joue un rôle important, quel que soit là où on est né. Enfin, moi, voilà, c'est en Afrique, mais j'ai grandi en Europe. Les stéréotypes de petites filles, on va dire en Afrique, tu as ça, mais quand tu arrives ici aussi, tu as des stéréotypes parce que tu es fille noire, tout ça, ça joue aussi. Après, pendant les études, l'éducation à la maison, l'enseignement, enfin l'école, puis l'entourage, en fait, il y a tellement d'éléments qui influencent ta pensée. Mais moi, j'ai gardé comme vraiment déjà petite. Il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée comme petite fille, les injustices par rapport aux filles et aux garçons. Et donc déjà, la germe de féministe était déjà dedans, quoi. Et à travers tout le temps, voilà, j'essayais à ma manière, peut-être de réagir par rapport à ça, que ce soit par l'art ou par la peinture ou par l'écriture. Mais je pense que là-bas, c'est vraiment dans l'éducation et la société, là où on est, quoi. Toujours. C'est un ensemble et les gens autour, etc.
Je veux juste dire, ça me fait penser que j'ai vu un reportage hier sur Netflix par rapport aux enfants d'Amérique africaine, donc noirs, jouaient toujours avec des poupées blanches. Et ça a commencé à évoluer. Et dans les années 70, ils ont fait la première Barbie noire. Et ils expliquaient tout un truc sur l'aspect des choses et comment la société voyait par rapport aux couleurs, quoi. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment.
Je trouve que la TV véhicule bien l'acceptation des couleurs. On voit des présentatrices noires, métisses, blanches, surtout sur les chaînes CNN. Donc, je crois que le combat des couleurs est fini. Enfin, on accepte plus les gens de couleur à la télévision, quoi.
Mais le combat n'est pas fini. Il y a un grand changement, mais parfois c'est aussi effet pour donner l'image, l'effet de l'image. On peut dire, dans notre société, on a des gens d'origine arabe, maghrébins, des Africains noirs, enfin voilà. Mais il y a aussi des organisations, des entreprises qui veulent vraiment intégrer la diversité dedans, dans leur équipe, mais pas seulement pour des petites fonctions, mais ça, c'est encore difficile. Hein. Déjà, en temps normal, d'avoir des femmes cadres qui ont des fonctions à responsabilité, et puis laisser encore, entre guillemets, les étrangers diriger une entreprise .
Faudra attendre encore,
il y a les plans pour ça aussi.
Encore attendre un siècle.
Mais il y a encore beaucoup de racisme. Mais ça, c'est pas que pour les femmes, c'est pour les Noirs, les Arabes, tout ça. Mais je voulais parler d'un film qui s'appelle Barbie. Je ne sais pas si vous connaissez. On a un peu vu toutes les métiers des femmes. Et ça peut un peu parler du... C'est un peu du truc de femmes aussi. C'est aussi possible de la femme, de Barbie avec ça, c'est pas mal comme film aussi. Voilà.
Je voulais juste ajouter que justement les personnalités publiques, je dirais, que ce soit en politique ou à la télévision, souvent elles sont de couleur, sont visées, sont attaquées dans les médias et ailleurs. Et il y en a qu'ils l'ont fait savoir, parce que c'est pas, si on n'est pas, enfin si on n'est pas, on le vit pas à la première personne et qu'elles ne le font pas savoir, on ne s'en rend pas compte. Mais donc il y a des speakerines, des présentatrices, des animatrices de télévision qui sont vraiment massacrées, j'ai envie de dire, au niveau des médias, enfin on leur envoie des messages, oui en Belgique, donc elles sont vraiment je pense qu'elles mènent un grand combat seules et ça doit être hyper difficile. Et moi, je dirais chapeau.
C'était par rapport à la chanson. En fait, il y a une chanson que mes enfants m'ont fait découvrir, qui, c'est un peu le contraire des paroles. Ils disaient « Si j'étais un homme ». C'est de Sheila, je veux vous connaissez.
Non.
Et justement, elle disait « si j'étais un homme, je ferais ce que... » Comme une femme, vous voyez, tu vois.
Okay.
C'est un peu... Je me dis, ça serait intéressant d'écouter... les deux,
ouais,
pour voir.
Confrontés.
Oui, confrontés.
Tout à fait.
Voilà.
Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne. Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos. Si j'étais un homme, oh, oh, ou. Si j'étais un homme, oh, oh, ou. Si j'étais un homme, oh, oh, ou. Si j'étais un homme, j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je draguerais les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serais ton indépendance, ton investissement à long terme. On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferai des promesses que je ne saurais tenir. Te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Triste aléa du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos. Si j'étais un homme, oh, oh, ou. 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 Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère. Qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Oh, oh. Si j'étais un homme. Si j'étais un homme. Je ne le suis pas.
On va continuer avec une lecture de texte. Donc Isabelle va nous lire le texte qu'elle a écrit qui s'appelle Marraine.
Tu es née fille. Qu'est-ce que ça voulait dire alors ?
Tu as grandi dans la ferme, choyée de tous, et tu es devenue femme. Habillée de grâce, de joie, et l'instituteur du village, triste et beau, t'a aimée, t'a mariée, t'a comblée. Tu es devenue mère, et qu'est-ce que tu as trimé? Lavée sans les machines, cuisinée sans les robots, habillée sans le sou, un, puis deux, puis trois, et finalement 8 enfants. Tu as traversé 2 guerres mondiales et tant de guerres silencieuses t'ont abîmée. Tu as lutté pour que tes filles soient instruites comme tes garçons. Tu as voulu qu'elles se construisent avec ou sans homme, autonomes. Et puis, tu es devenue grand-mère. Tu m'as transmis le goût des livres, je crois, et le bonheur d'enfanter. Tu m'as donné tes tendres genoux, m'as tendu tes joues ridées, ta peau toute douce que j'aimais tant caresser. Je me suis blottie contre toi et tu m'as consolée. Toi qui es née le 11 janvier 1912, il y a 111 ans, aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que j'ai écrit ce texte donc il y a 2 ans environ. Et on avait quelques questions, alors du coup, à partir de ce texte, à vous poser. Vous de Babelzine. Enfin, la question c'est qu'est-ce qui vous a influencé dans votre vie en tant que, enfin, dans votre manière en fait d'être femme ou dans votre manière d'être homme. Oui, alors ça peut être les aïeux, enfin ça peut être aussi l'environnement, comme on disait tout à l'heure, hein, l'éducation. Mais voilà, est-ce que vous voyez des éléments qui vous ont vraiment guidé, influencé positivement dans votre façon d'être?
Oui, moi très tôt, j'ai vu la différence entre les femmes et les hommes. Je me suis instruit, j'ai vu des sketchs qui montrait la différence entre les femmes et les hommes. Et voilà, maintenant, je pense que j'ai compris quelles sont les différences et comment trouver des solutions pour que ça aille bien.
Oui, et donc dans ta façon d'être homme, alors, qu'est-ce que tu trouves comme valeur peut-être principale, alors à partir de ce que tu as alors lu ou écouté comme sketch? Enfin, qu'est-ce qui est le plus important, toi, en tant qu'homme?
D'avoir compris ce qu'est la femme. Okay. Ouais, c'est très important. Pas la réduire à seulement le mot femme, mais aller beaucoup plus loin. Et voilà.
En t'écoutant, je me suis demandé, tu as dit tu as compris la femme. Et tu as des exemples dans les actions que tu fais pour justement montrer que tu as compris la femme.
Par exemple, j'ai lu beaucoup de biographies et je voyais toujours une femme derrière l'homme. Et j'ai l'impression que c'est elle qui tenait les rênes du couple.
Enfin, je me souviens plus vraiment de la question, mais moi, le texte, donc ton texte, me fait plus écho à de l'émotion. Enfin, il y a de l'émotion de penser à mes grand-mères, ou en tout cas une de mes grand-mères, qui a élevé 13 enfants avec le même homme. Et elle était assez moderne. Je ne sais pas si elle était moderne avec ses filles, mais en tout cas, elle avait déjà des idées par rapport à la santé, se soigner par homéopathie, des choses comme ça. Enfin, je me rends compte maintenant, c'était waouh, quoi. C'était super à l'avance, en fait. Mais bon, après, elle se faisait du souci pour ses enfants. Elle se faisait... Voilà. Je sais quand il y a des choses choquantes, comme par exemple si elle était seule à la maison et que mon grand-père partait travailler, ben, et comme il n'y avait pas de quoi chauffer pour toute la journée, ben, on chauffait quand il rentrait. Mais donc, elle se tapait la journée dans le froid, quoi. Des choses qui lui restaient de travers. Et donc, ça créait des tensions et ça devenait un couple... un peu l'un contre l'autre, quoi. Ouais. Qui était à se déchirer plutôt. Et l'autre grand-mère, elle était une des premières pharmaciennes de Belgique. Donc vraiment dans un, on voit sa classe de femmes et son, je sais pas, 8 ou 10, et voilà, c'était vraiment la première promotion. Donc je me dis waouh, seul enfant d'un couple d'ouvriers rouges qui avait décidé on n'aura qu'un enfant et si c'est une fille elle aura une instruction. Mais voilà, en même temps ça a fini qu'elle a eu 4 enfants, elle est restée au foyer. Donc c'est pas à gagner d'office, quoi. Oui.
Mais et toi, tu dirais que tu as été influencée par l'une d'elles ou bien par d'autres personnes un peu, je sais pas moi, phares?
Non, je sais pas dire pourquoi, pas vraiment. Et c'est peut-être encore aujourd'hui que je cherche ces femmes comme modèles. Et par exemple. Récemment, j'ai été voir, donc c'était la semaine dernière, j'étais voir un film, Reine, et donc d'une femme marocaine, et qui m'a boosté complètement. Enfin, ça m'a donné un peps, et comme si tout était possible, c'était un peu un Thelma Louise marocain, et je sais que ça fait un tabac au Maroc, les gens suivaient le film de ville en ville, et elle voulait justement donner des femmes, des images emblématiques, j'ai envie de dire, auxquelles se raccrocher. Et j'ai envie de dire, ça a marché, mais pas seulement pour la communauté maghrébine, même je trouve pour moi en tout cas. Et l'histoire du film est belle aussi parce qu'il y a son parcours à elle. Elle a vraiment, elle a écrit le scénario et elle s'est dit, il n'y a que moi pour le faire. Et elle a eu un producteur qui a bien voulu le faire et qui l'a fait à ses conditions. Et ses conditions, c'était pas de tête d'affiche, donc pas de grande star. Donc ça bloquait les subventions européennes. Et au lieu de faire un film avec, je sais pas moi, 6 producteurs ou 6 productions, c'est un film avec 25 partenaires financiers. Et donc je me dis chapeau, chapeau, chapeau. Et là, on a l'impression que c'est dire, bah oui, peut-être que les choses sont possibles dans ce que j'ai envie de faire moi. Et que je peux aussi ouvrir des portes. Si elle a réussi à ouvrir les portes, pourquoi pas moi? Elle est plus jeune que moi, mais et peut-être que sur le temps de carrière qui me reste, peut-être que moi aussi je peux ouvrir les portes que j'avais envie d'ouvrir, plutôt que d'aller vers un boulot alimentaire, secrétariat. Enfin voilà.
Qu'est-ce que ça a ouvert comme porte?
Ah ben, je me suis inscrite à des cours à l'académie en me disant bah, peut-être qu'à 53 ans je peux faire du piano, je peux faire de la musique, je vais faire du rythme, du body percussion ou... après j'ai vu grand, donc je me suis inscrite à plein de trucs, donc je sais pas si je vais suivre tout ça, mais en tout cas ça, l'envie est venue et de me dire vas-y, ose, fais-le, t'as peut-être poussé ton enfant à le faire, mais toi aussi t'aurais voulu le faire et ça s'est pas fait pour X ou Y raison et...
Doucement, doucement.
Voilà.
Après, c'est incroyable, hein, ça sert. Enfin, voilà, ça t'a propulsé, là, mais ça t'a ouvert 15 000 portes, quoi. C'est fou. On va se diriger bientôt vers la fin de l'émission. Mais j'avais encore envie de savoir si vous deviez retenir une chose, en tout cas la chose qui vous paraît la plus importante aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ?
L'humanité, tout simplement. L'humain. Mm-hmm. Que ce soit homme ou femme, je dirais l'humain, en règle générale. Mais j'ai apprécié de passer ce moment avec vous. Et on a eu des bonnes discussions. Bon, on ne peut pas s'étaler en longueur, car on ne peut pas rester à l'antenne trop longtemps. Non. Je dirais. Oui, bon. Voilà, satisfaite de cet échange avec vous tous. Merci.
Moi, c'est le changement. Il y a des changements chez les femmes, chez les hommes, et c'est jamais facile un changement. Donc, il faut prendre le temps nécessaire, et voilà. Mmh.
Moi, j'ai l'image qui me vient un peu comme tu parlais d'humanité, d'un bébé. Quand on voit un bébé, on est émerveillé du bébé et on se pose pas trop la question, c'est fille ou c'est garçon. C'est un bébé, c'est tout, c'est beau.
Faut que la femme se batte encore.
Pour moi, c'est trouver l'équilibre
entre voilà, l'homme et la femme. Et c'est déjà bien qu'il y a des avancées, mais il faut continuer.
Mmh. J'ai bien aimé la réflexion de la part de féminité et de masculinité qui est entre en chacun de nous. Parce qu'en fait, nous sommes au départ des humains, quoi. Qu'on soit. Bon, il se fait que pour une raison, un chromosome en plus ou un chromosome en moins, à un moment donné, ben, à peu près la moitié qui vont se retrouver avec un zizi seront des garçons et d'autres avec un utérus seront des femmes. Mais dans chaque homme, il y a la féminité. Et c'est presque comme en mathématiques, on parle de courbe gaussienne finalement. En moyenne, on est tous. Bon, les garçons ont un maximum de caractère de garçon, les filles un maximum de caractère de filles, mais de chaque côté de la courbe, il y a des garçons un peu filles et des filles un peu garçons. On appelle ça souvent des garçons manqués. Et tout ça, ça fait l'humanité. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on réfléchisse, à comprendre cette différence, à se comprendre les uns les autres, à apprécier les uns chez les autres des caractères spécifiques qui font finalement toute la noblesse de l'humanité. Waouh, je suis philosophe.
On a encore la deuxième partie du texte du Babelzine à lire, donc Anne-Sylvie.
Je suis consciente des combats de nos grands-mères. Je suis une femme sensiblement masculine. Je suis touchée par des reportages que souvent je regarde. Je suis la violence et j'en suis le sens. Je suis une personne remplie de pureté dans le miroir, séparation violente, privée de liberté. Je suis élevée dans la tradition. Je suis dans mes casseroles. Je suis des tonnes de fleurs pour une vie de bonheur. Je suis l'acceptation de nos inégalités et de nos privilèges. Toujours astiquer la maison et le foyer. J'ai perdu une personne dont je voyais son miroir reflété dans le mien. Je suis la souffrance d'un combat perdu d'avance. Je suis à la recherche de normes qui me conviennent. Je suis la séduction qui réunit nos hanches dans la reconnaissance naissant d'une rose.
Merci.
Quelle poésie. Merci. C'est magnifique, hein? Voilà, moi en tout cas je retiens cette beauté de l'humain qui peut se transmettre par les voix, par les textes et ce lien, effectivement, ce lien qu'on a les uns les autres dans un travail encore certainement au moins d'un siècle écrire vraiment une nouvelle égalité, une nouvelle humanité avec une égalité entre tous et toutes, quel que soit notre sexe, notre identité, notre couleur de peau, notre âge, etc., etc. Alex, qu'est-ce que toi tu retiens ?
Moi, je rejoins un petit peu Aïcha. L'envie de continuer à se battre et à défendre nos droits. Enfin, il y a tellement de choses qui ont été dites aujourd'hui. J'ai eu envie de rentrer dans plein de thématiques différentes. En fait, je trouve que on a abordé une grande diversité de thématiques qui, en plus, moi personnellement, me sont assez chères. Et donc, j'avais envie à chaque fois de rebondir dessus, mais c'est pas possible. Et donc, voilà, je trouve qu'on a abordé des sujets importants. Mais oui, moi, je voilà, combat, on continue, on a la troisième vague du féminisme, ouais. Il y en aura sûrement d'autres, donc voilà, pour moi la transmission elle est là aussi. Moi j'ai beaucoup aimé ton texte aussi Isabelle, ma reine, parce que voilà, moi la transmission pour moi est quand même une notion importante, et se transmettre des valeurs comme ça de défense de nos droits et tout ça, pour moi c'est quelque chose de très important, et donc moi je reste avec ça en tout cas.
Il y a une valeur très importante, l'acceptation, parce que si on n'accepte pas, la porte est fermée et on ne sait pas avancer.
Mmh. Alors, on va clôturer l'émission avec donc une chanson de La Femme qui s'appelle « Si un jour », donc qui aborde aussi un petit peu la question des stéréotypes. Mais donc, avant ça, on va peut-être se dire au revoir.
Je ne sais pas si vous avez un agenda à communiquer, peut-être, le collectif des mots envolés.
Oui, on a un agenda, puisque je le disais en début d'émission, on va démarrer un nouveau parcours d'écriture. Et donc, on vous invite évidemment à nous rejoindre. Donc, ça va être le vendredi 13 septembre. On n'est pas du tout superstitieux, au contraire. donc on va se réunir à Babelsin. Donc, voilà, on a le bonheur en fait d'être accueillis ici même. Et donc, un tout grand merci. Et ce sera donc le vendredi 13 à 10h pour un démarrage d'un nouveau parcours d'écriture. On aura quand même le temps, hein, on va dire un an, pas trop en plus, mais d'approfondir un thème qu'on va choisir ensemble.
Et le thème, c'était encore...
Ah, on ne sait pas encore le thème, puisqu'on va le choisir. Ouais.
Réfléchissez déjà.
Oui, c'est ouvert. Évidemment, c'est ouvert. Hein, donc...
Et vous avez des choses à l'agenda, Alex ?
Donc nous, c'est un peu le programme. Enfin, on a des sorties estivales un peu exceptionnelles, et notamment sorties à la mer. On organise une donnerie au Babelsin le lundi 8 juillet. Nous allons aussi au Festival Aphrodisiaque. Et il y aura des visites guidées aussi durant l'été. Et une sortie en waterbus aussi. Oui, une expo. On va voir l'expo Titanic demain. Et sinon, aussi, il y a un gros projet en fait qui reprend au mois de septembre, un projet qu'on a déjà fait l'année passée. C'est un projet théâtre, qui est pas encore complètement défini, mais ça a été un gros projet qui nous a tenu pendant 6 mois l'année passée, qui a été un grand succès. On a eu la chance de pouvoir jouer au centre culturel d'Odergem, et donc on s'est dit qu'on allait remettre ça cette année. Et donc c'est ouvert à toutes et à tous, donc vraiment n'hésitez pas à venir. Et puis je rappelle aussi que le Babelsin est un lieu ouvert et que vous pouvez juste passer, prendre une tasse de café, on peut se rencontrer et faire des petites activités, faire du vélo, aller au cinéma, enfin voilà, tout plein de choses. On a un site internet, une page Facebook, mais n'hésitez pas à passer dans nos locaux pour qu'on puisse un petit peu présenter
J'ajoute qu'il y a de l'artistique.
Et il y a beaucoup
d'artistique. Donc mosaïque, ouais. Collage...
Tout à fait.
Et autres.
Et autres.
Cuisine.
Peinture.
Et bien voilà.
Merci beaucoup pour votre accueil. À vous tous et toutes. Merci pour votre porte ouverte.
Merci. Et merci pour votre participation. C'est la première fois qu'on fait une émission radio. Et donc voilà, c'était un exercice particulier, mais super.
La porte du Babelsin est ouverte.
Maintenant, c'est le gâteau.
Et on va se quitter avec une chanson que vous avez choisie, le groupe de Babelsin. Il s'agit de « Si un jour » par le groupe La Femme. Bonne soirée.